20 часов в Париже. В Париже,
он идет с термометром.
Стада, Сехран, Бисуэко, Сиде.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue ce soir dans Accent du Monde. Lucia Mouzel pour la rédaction brésilienne. À propos d'enfants brésiliens adoptés illégalement par des Français. Pizemam de la rédaction Khmer.
Bonsoir Philippe.
Concernant l'élection législative en Malaisie avec la victoire historique de l'opposition. Et Raphaël Moran de la rédaction hispanophone.
Buenas tardes.
Car l'Argentine appelle le FMI à l'aide. Bonsoir à vous tous. Avant tout cela, intéressons-nous à l'une des principales actualités de la semaine. Une décision qui fait craindre le pire.
We cannot prevent an Iranian nuclear bomb under the decaying and rotten structure of the current agreement.
Voilà donc la décision de Donald Trump de quitter l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Cela peut avoir de lourdes conséquences alors que l'équilibre de la région est déjà bien fragile. Les réactions ont été très largement faites de regrets et de condamnations. Cet accord peut-il encore être sauvé d'une manière ou d'une autre? Puis même les Européens, dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, sont en train de former un front pour protéger cet accord. Que sont-ils en train d'envisager au moment où nous parlons?
Oui Philippe, en effet, les Européens se sont montrés très déterminés pour protéger cet accord, qu'ils jugent comme un accord bien sûr imparfait, mais qui représente une étape cruciale dans le processus de normalisation avec l'Iran. La décision de Donald Trump a été qualifiée comme irresponsable, si on reprend la formule du ministre des Affaires étrangères luxembourgeois. Madame Mogherini, chef de la diplomatie européenne, a affirmé que l'Union européenne est déterminée à préserver l'accord nucléaire iranien. Et ce n'est pas tous les jours que la Russie et la Chine se sont eux aussi d'accord avec les Européens.
Le président iranien a déclaré, c'était mardi dernier, que l'Iran souhaite négocier avec les Européens et d'autres signataires de cet accord. Il menace également en affirmant que son pays pourrait reprendre ses activités d'enrichissement d'uranium.
Oui,
il souffle le chaud et le froid finalement.
Oui, c'est dans ce sens-là que les Européens vont prôner surtout le dialogue avec l'Iran pour convaincre celui-ci ici à ne pas se retirer de cet accord. Le mardi 15 mai, Mme Mogherini va recevoir les ministres des Affaires étrangères français, allemands et britanniques. Les quatre parties vont ensuite discuter avec leurs homologues iraniens. La chancelière allemande et le président Poutine vont probablement discuter par téléphone dans les prochains jours afin de tracer une voie à suivre pour essayer de maintenir cet accord avec l'Iran malgré l'absence des Américains.
Lucia Mouzel, la diplomatie brésilienne a toujours été très proche de celle des États-Unis. Mais au cours de ces 15 dernières années, il y a eu un rapprochement de Brasilia avec les pays dits non alignés tels que l'Iran. Comment est-ce que le Brésil réagit donc à cette décision de Donald Trump?
Philippe, pour l'instant, silence radio de la part de Brasilia. Pas un mot sur la sortie des Américains de l'accord. Brasilia garde la prudence car le gouvernement brésilien est en train de négocier en ce moment même avec Washington la possibilité d'un retour en arrière, disons, de Trump concernant cette augmentation des taxes d'importation sur l'acier et l'aluminium par les États-Unis. Le Brésil étant un très grand exportateur de l'acier brut, notamment aux États-Unis. Brasilia n'est pas très content de l'attention, ou plutôt du manque d'attention de Trump envers l'Amérique latine depuis son investiture, malgré le fait que la région soit sous forte influence des États-Unis historiquement. La personnalité imprévisible de Trump n'aide en rien, bien sûr, donc il vaut mieux ne pas se fâcher avec lui en ce moment, car le Brésil est très conscient d'être le maillon faible dans ce jeu.
Lucia, vous parliez d'acier et d'aluminium. En effet, la décision politique de Trump a également des conséquences économique. Raphaël Moran, les États-Unis devraient rétablir des sanctions commerciales et financières dans les mois à venir. Ces sanctions vont affecter les pays européens par ricochet.
Oui, parce que les sanctions américaines ont ceci de spécifique, elles sont extraterritoriales. Si un pays est frappé de sanctions commerciales par les États-Unis, eh bien toute entreprise tierce qui commerce avec cette nation sanctionnée est elle aussi passible de lourdes amendes. C'est déjà arrivé. Donc nos analystes à la rédaction Amérique latine font souvent le parallèle, la comparaison avec le blocus commercial de Cuba qui empêche les entreprises d'autres pays d'investir dans ce pays sous peine de se voir interdire de faire du commerce aux États-Unis.
Autre chose, le ministre français de l'économie a appelé les Européens à se mobiliser pour refuser ce que Bruno Le Maire appelle une vassalisation commerciale de l'Europe. Les pays européens veulent continuer donc à commercer avec l'Iran. Raphaël, quels sont les secteurs européens qui pourraient être touchés par ces sanctions prises contre l'Iran?
Alors il y a l'aéronautique, l'entreprise Airbus russe va décider bientôt si elle poursuit ses ventes d'avions à l'Iran. On a la compagnie pétrolière Total aussi qui a investi dans le grand gisement de gaz iranien de South Pars qui pourrait revendre ses activités à un groupe chinois. Et du côté de l'Allemagne, on a environ 10 000 entreprises qui ont des relations commerciales avec l'Iran, dont des grands groupes comme Siemens ou des constructeurs automobiles, mais le volume d'échanges reste encore assez limité. Au-delà, en fait, c'est l'économie, toute l'économie européenne qui serait touchée, puisque si l'Iran ne peut plus exporter ses hydrocarbures à cause des sanctions, les prix vont augmenter, les prix du pétrole. Or, alors l'Arabie Saoudite, rivale de l'Iran, s'est engagée à compenser cette perte de marché. Elle s'est engagée à vendre plus de pétrole pour éviter les pénuries. Mais face aux incertitudes, le cours du baril a déjà augmenté ces dernières semaines et le pétrole cher, eh bien, c'est mauvais pour l'économie européenne.
Pizet, Raphaël parlait à l'instant de l'Allemagne.
Oui, c'est vrai que les sanctions américaines menacent directement les intérêts économiques européens en Iran. Et le nouvel ambassadeur américain en Allemagne, Richard Rennell, a déclaré sur Twitter que les entreprises allemandes présentes en Iran doivent cesser immédiatement leur activité. Ce propos a créé des doutes dans l'industrie allemande et aussi des tollés généraux de la part des responsables allemands. Pour la France, 8e partenaire économique de l'Iran, a aussi beaucoup à perdre. Depuis la signature de l'accord en 2015, presque 2,5 milliards d'euros ont été investis en Iran par les grandes entreprises françaises comme PSA, Renault, Total ou Airbus. Donc même si ces entreprises ont mis en place la clause snapback qui permet de fermer brusquement en cas de changement de l'accord international, mais personne ne souhaite que cela soit arrivé.
Lucien Moselle, le Brésil, comme plusieurs pays dans le monde, a su profiter de l'ouverture commerciale de l'Iran après l'accord de Vienne. Quel serait l'impact de ces sanctions américaines?
Le commerce entre l'Iran et le Brésil a plus que triplé depuis 2011 et atteint 2 milliards 600 millions de dollars en 2016, presque la totalité au profit du Brésil. Et pas plus tard qu'en avril, le président brésilien Michel Temer avait reçu le chef de la diplomatie iranienne et les deux avaient convenu de doubler cette somme sous 5 ans. Par exemple, les Iraniens sont aujourd'hui les deuxièmes plus grands importateurs de la viande bovine brésilienne au monde, derrière la Russie seulement. Et il reste des marchés iraniens à conquérir par les Brésiliens, tels que l'aviation et le bâtiment. Ce n'est donc pas du tout négligeable pour l'économie brésilienne, mais le retour des sanctions américaines risque d'entraver ce commerce. Les entreprises et les banques brésiliennes qui font du business avec l'Iran craignent donc une riposte des institutions financières américaines, notamment la Fed, la Banque centrale des États-Unis.
Oui, enfin, cette crainte, elle existe partout dans le monde. Ce n'est pas une exception brésilienne non plus.
Tout à fait. On l'a vu, la France aura beaucoup à perdre aussi. Plusieurs entreprises devront probablement résilier des contrats à la hauteur des milliards d'euros avec l'Iran. Et dans notre rédaction, nous avons développé ce sujet et avons interviewé quelques experts, comme le consultant Georges Mortéan, qui a fait un master en géographie politique en Iran. On l'écoute.
Si j'avais dû faire avant disso, agora provavelmente a tendência é.
Que vous a expliqué, Jorge Mortéan?
Voilà, il dit qu'il était déjà très difficile de traiter avec l'Iran, même avec l'accord, avec des barrières qui persistaient. Et maintenant, la tendance, c'est que tout le monde en souffre les conséquences par peur de représailles américaines. En même temps, M. Mortéan pense que du côté de la diplomatie brésilienne, le pays ne va pas s'éloigner de l'Iran. Il rappelle que dans l'histoire, nous avons connu des moments beaucoup plus compliqués, comme pendant la guerre froide, où le Brésil a pu garder son indépendance vis-à-vis de l'Iran, malgré la faute sa forte relation avec les États-Unis, bien sûr.
Voilà ce qu'on pouvait dire avec le regard croisé des rédactions de RFI ce soir sur Trump qui revient donc sur cet accord sur le nucléaire iranien. Vous écoutez Accent du Monde.
This is Radio France International.
Paris, RFI, $1,000.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous à des sujets particulièrement traités par RFI et ses rédactions en langues étrangères. La rédaction cambodgienne, par exemple, s'est intéressée particulièrement à l'élection législative qui vient d'avoir lieu en Malaisie. Pizemam, l'opposition a réuni la majorité des sièges au Parlement. Et il s'agit d'une victoire historique pour l'opposition dans ce pays.
Oui, en effet, Philippe, cela fait 61 ans que la Malaisie a resté dans la main du parti, l'Organisation nationale de l'unité malaise. Depuis 1957, après l'indépendance, cette formation politique a toujours su créer une coalition pour gagner à chaque élection. Mais cette fois-ci, l'opposition, le pacte de l'espoir, formé de 4 partis opposants au gouvernement de M. Najib Razak, a gagné 113 sièges par parmi les 222 sièges au Parlement, tandis que la coalition de Najib Razak ne parvient à conserver que 79 sièges.
Alors pourquoi on va rentrer dans la cuisine politique, hein, puisque cette victoire doit sans doute à l'ancien Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad, qui était dans le passé l'adversaire de l'opposition, et aujourd'hui il représente cette opposition pour battre son ancien camp. C'est très compliqué. Hein.
Oui, effectivement, Philippe, la large victoire de l'opposition a été propulsée par la candidature de M. Mahathir Mohamad, le vieux politicien de 92 ans, très respectueux en Malaisie. D'habitude, la coalition de Najib Razak compte énormément sur sa base électorale de la population d'origine malaise, qui compte 60% de la Malaisie. Mais il y a beaucoup de déceptions chez cette population, principalement à la campagne, d'une part à cause de scandales de la corruption et d'autre part à cause de l'augmentation de coûts de la vie. Une énorme scandale de corruption est survenu en 2015. Le premier ministre Najib Razak est soupçonné d'empocher plus de 500 millions d'euros grâce à son fonds d'investissement public OneMDB.
Autre enseignement.
Et autre enseignement, c'est que le retour de Mahathir Mohamad, cette fois dans le camp de l'opposition, ne fait que conforter le choix des électeurs malais musulmans, du fait que Mahathir Mohamad lui-même soit un nationaliste malais musulman très convaincu. Donc pour l'électorat malais, l'opposition incarnée par Mahathir Mohamad n'est pas perçue comme menaçant. Donc Mahathir Mohamad a promis de poursuivre Najib Razak en justice afin de récupérer l'essentiel de l'argent de fonds OneMDB, et d'après ses déclarations, il va aussi céder sa place dans 2 ans à son ancien vice-premier ministre Anwar Ibrahim après que celui-ci soit gracié par le sultan de la Malaisie.
Voilà pour cet éclairage sur ce qui se passe en Malaisie, où là encore, corruption et politique font bon ou mauvais ménage, tout dépend de quel côté on se place. Pizemam, donc, de la rédaction cambodgienne de RFI. La rédaction brésilienne s'est intéressée, elle, cette semaine, à ces enfants, ces petits Brésiliens adoptés illégalement par des Français. Lors de la deuxième journée des adoptés, qui a eu lieu à Paris à l'initiative de l'ONG Voix des Adoptés, Lucia Mouzel, vous avez découvert que pas moins de 8500 petits Brésiliens ont été accueillis au sein de familles françaises, c'était entre les années 80 et 2000. Problème, dans la grande majorité des cas, c'était de manière illégale.
Oui, à une époque où la législation internationale sur le trafic d'êtres humains était beaucoup plus faible et surtout moins appliquée. Hein. Des milliers d'enfants issus des pays pauvres finissaient facilement au foyer des familles européennes. Contre une dizaine ou une quinzaine de milliers d'euros, ces familles pouvaient adopter les enfants des familles pauvres brésiliennes, par exemple. Et ces bébés n'étaient pas encore déclarés à l'état civil brésilien et les familles européennes n'avaient que à le faire au Brésil, comme si la maman avait accouché là-bas. Bien sûr, cela a permis de donner tout un autre avenir à ses enfants ici en Europe. Mais en même temps, il y a bien sûr l'envers du décor. Une fois adultes, ces enfants veulent chercher leurs origines. Et c'est là que tout se complique, car ils n'ont pas accès à aucun registre sur leur passé. Car ce registre n'existe tout simplement pas. Et de l'autre côté aussi, les mères qui ont donné naissance à ces enfants ne savent même pas comment ils s'appellent, ces fils biologiques.
Alors à cette rencontre de Paris, étaient présents quelque 70 de ces enfants brésiliens, donc adoptés en France. Aujourd'hui, ils sont adultes et ils veulent connaître leurs droits, s'informer sur les moyens de retrouver leur famille biologique. Vous y faisiez allusion il y a de cela quelques instants.
Oui, voilà, c'est un grand défi, car cette association, elle a été créée par une Française adoptée au Pérou en 1980. Cette ONG, elle est présente dans 4 villes françaises et aide les enfants adoptés, toutes les nationalités confondues, à retrouver ses origines. Cette recherche du passé commence par l'état civil et la police, bien sûr, mais passe aussi par l'internet, les réseaux sociaux. Parfois ça marche, heureusement, mais dans des centaines de cas, il est impossible de retrouver la trace de la famille biologique. Ana Cristina Cardoso de Mello, psychologue judiciaire et bénévole de l'association au Brésil, elle nous a expliqué que bientôt ce travail de recherche pourra compter sur l'aide précieuse des fichiers génétiques de la police judiciaire. On entend.
Com a nova política, vai possibilitar o cruzamento de informações genéticas.
Então, essa pessoa... Quelle est son analyse?
Elle dit donc qu'une nouvelle loi va autoriser le croisement des fichiers d'ADN avec ceux de personnes disparues au Brésil. Et dans ces cas, si jamais la famille brésilienne qui a livré son enfant à l'adoption le recherche un jour, et de l'autre côté aussi, l'enfant recherche sa famille biologique, ils pourront un jour se retrouver beaucoup plus facilement grâce à ces dispositifs.
Oui, c'est un long parcours. Hein. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des adoptions
illégale au Brésil.
Voilà, ce n'est qu'à partir de 2008 que les autorités brésiliennes ont été en mesure de freiner un peu l'action des réseaux de trafic humain par lesquels ces enfants étaient adoptés illégalement. Car avant cela, les informations des différentes régions du Brésil n'étaient tout simplement pas reliées. Et depuis, l'action des réseaux illégaux a fortement baissé. Cela ne veut pas dire que l'adoption illégale n'existe plus, mais selon cette association, à cause des contraintes et au Brésil et en Europe, les familles européennes préfèrent aujourd'hui largement passer par la voie légale. Concrètement, cela veut dire adopter les enfants disponibles pour l'adoption et qui ne sont pas adoptés par des familles brésiliennes en priorité, c'est-à-dire finalement des enfants plus grands ou adolescents ou sinon des fratries d'au moins 3 enfants dans ce cas.
Lucia Mouzel de la rédaction brésilienne de Radio France Internationale. L'histoire se répète en Argentine. Le président Mauricio Macri négocie actuellement un emprunt avec le Fonds monétaire international. La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, l'a assuré de son soutien. Alors, pas encore de chiffres officiels, mais Buenos Aires pourrait emprunter jusqu'à 30 milliards de dollars. Raphaël Moran, de la rédaction Amérique latine de RFI, pourquoi l'Argentine se retrouve à nouveau dans cette situation?
Alors, le président argentin a déclaré cette semaine qu'il est en train de négocier avec le Fonds monétaire international de manière préventive pour freiner la panique monétaire qui s'est emparée du pays. Depuis quelques mois, le peso argentin dévisse. Les Argentins convertissent massivement leurs économies en dollars. Ils n'ont plus confiance en leur monnaie. Pourtant, Mauricio Macri avait été élu sur la promesse d'une libéralisation de l'économie, d'une ouverture de l'économie et donc du retour des capitaux étrangers. Mais les résultats se font attendre.
Eh bien oui, mais alors pourquoi l'Argentine est à nouveau dans de pareilles difficultés?
Alors, il y a trois facteurs principaux. D'abord, cette libéralisation de l'économie s'est accompagnée d'un rétablissement des taux de change flottants. Ils étaient contrôlés jusque-là, on ne pouvait pas changer des dollars comme on voulait en Argentine. Depuis que ces taux de change sont libéralisés, les Argentins se tournent vers les dollars, ils achètent massivement des dollars. Ensuite, second facteur, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, le gouvernement de Mauricio Macri est revenu sur les marchés financiers, il s'est réconcilié avec les marchés financiers, il emprunte massivement de l'argent sur les marchés, mais ça coûte cher puisque l'État argentin rembourse des bons en dollars à un taux d'intérêt de 25%.
Ah, c'est un taux usurier.
Très cher.
Et puis il y a l'augmentation du prix du pétrole, non?
Voilà, pour les raisons qu'on a évoquées, l'instabilité par rapport à la production, les incertitudes par rapport à la production iranienne. Et donc là encore, le pays paye plus cher ses importations de pétrole et donc il est soumis aux aléas de la finance internationale également.
Alors la décision del presidente Macri vise à rassurer les marchés. Elle inquiète pour autant la population.
Oui, je vous propose d'écouter cette habitante de Buenos Aires interviewée par la correspondante de RFI, Aude Villiers.
Una decisión horrible, porque para poder pagar los intereses de la deuda.
Que dit cette femme?
Alors, elle dit que c'est une décision horrible. Elle craint que le FMI n'exige des coupes budgétaires supplémentaires en échange de ses prêts. La situation, en fait, ces négociations entre le gouvernement et le FMI réactivent des souvenirs assez durs de crise économique et sociale de 2001. Quatre présidents argentins étaient tombés en 10 jours à cause de la crise économique. Il y avait des émeutes de la faim. Le pays s'en était finalement sorti grâce à une reprise économique très rapide. Et grâce au président Kirchner qui avait coupé les ponts avec le FMI, remboursé les dettes, mais parce que finalement le FMI avait imposé des plans de rigueur très très durs, donc ça a laissé des souvenirs difficiles dans les esprits argentins. Et l'opposition du coup kirchneriste est opposée à ces négociations, ne veut pas entendre parler du FMI à taux, et on peut comprendre ces craintes hein,
puisque 25%, voilà, oui, c'est cher.
L'État rembourse déjà ses prêts de manière très élevée, ça coûte très cher.
Merci à vous pour cet éclairage sur ce qui se passe en Argentine, Raphaël Moran de la rédaction Amérique latine. Merci à vous tous, plus largement, pour cet éclairage sur ce qui fait l'actualité dans le monde. C'était Action du Monde. Dans quelques instants, l'essentiel de l'actualité sur RFI.